Chapitre 35. Haine de l'évêque de Montréal. Le 25 août, j'étais de retour à Longueuil et je racontais à mon vénérable ami, M. Brassard, mon orageuse entrevue avec l'évêque Bourget. Je connaissais déjà le mauvais vouloir de l'évêque de Montréal à ton sujet, me répondit ce digne ami. Son entourage est malheureusement composé d'hommes qui, comme lui, ont des vues trop étroites pour comprendre la grandeur de l'œuvre à laquelle tu veux consacrer ta vie. La conquête de la vallée du Mississippi par l'Église est assurément une des plus grandes pensées que la religion ait jamais inspirées. N'est-ce pas étrange? Au lieu de t'en bénir, ces hommes sont furieux contre toi car ils voient bien que tu vas réussir. Mais prends garde, un complot se forme contre toi. Ceux qui sont à sa tête sont décidés à te perdre de réputation et à te couvrir d'opprobre. En faisant cela, ils sont sûrs que personne ne te suivra dans l'Illinois. Car en dépit de tes soins, tout le monde sait aujourd'hui que c'est toi que les évêques de l'Ouest veulent mettre à la tête de ce grand projet d'émigration catholique. Comprends-moi bien. L'évêque s'est servi de toi pour réformer son diocèse et t'a aidé pour ce travail. Mais ta popularité est trop grande aujourd'hui pour lui et pour tes ennemis. Ils veulent se débarrasser de toi à tout prix et ils ne reculeront devant aucun moyen pour réussir. Je vous suis mille fois obligé de m'en avoir prévenu. Mais quels sont les moyens qu'on va employer pour me déconsidérer devant mon pays ? Si je les connaissais, je te les dirais avec joie, pour que tu fusses mieux sur tes gardes. Malheureusement, je ne les connais pas, car tu comprends que me sachant le plus ancien et le plus dévoué de tes amis, ils ne me mettront pas dans leurs secrets. Notre Seigneur a dit à tous ses disciples, « Vous aurez de grandes tribulations dans le monde, mais ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. » Je suis plus que jamais décidé à ne mettre ma confiance qu'en Dieu et à ne pas craindre les hommes. 2 heures plus tard, je recevais la lettre suivante du secrétaire de l'évêque. Monsieur Charles Chiniki, apôtre de la tempérance. Monseigneur l'évêque de Montréal me prie de vous informer qu'il désire vous voir pour une affaire importante. Veuillez donc venir à l'évêché aussitôt que vous le pourrez. Votre tout dévoué, Jos Paré, secrétaire. Je me rendis chez l'évêque dès le lendemain. Il me reçut avec toutes les marques de la plus sincère affection et me sembla avoir complètement oublié ce qui s'était passé à notre dernière entrevue à Québec. Il commença par m'exprimer sa satisfaction de mes constants efforts et de mes succès dans l'œuvre de la tempérance. Il ne parla cependant pas longtemps sur ce sujet. Il devint bientôt silencieux et embarrassé. J'étais mal à mon aise et je me sentais sur des épines au souvenir de ce que M. Brassard m'avait dit la veille. Enfin, faisant un effort sur lui-même, « N'êtes-vous pas le confesseur de Mme Chénier, veuve du capitaine Chénier ?»« Oui, monseigneur, lui répondis-je. Elle vient à confesse auprès de moi depuis que je suis à Longueuil. Savez-vous que sa fille unique est religieuse dans le couvent de cette paroisse ?»« Oui, monseigneur. Ne vous serait-il pas aisé de persuader à Mme Chénier qu'il vaudrait mieux pour son salut qu'elle se fît aussi religieuse ?»« Je n'ai jamais eu cette idée, monseigneur. Je ne vois pas trop comment je pourrais lui conseiller d'échanger sa vie actuelle, si douce et si facile, contre la vie austère du cloître. Elle est si heureuse au milieu de ses richesses et de ses amis. Mais elle paraît encore bien jeune. Environnée comme elle l'est, de toutes les séductions de la richesse et des dangers de l'isolement, ne craignez-vous pas pour elle quelques-unes de ces déplorables tentations qui mettraient son âme en danger ? Je comprends votre grandeur. Il est vrai que Mme Chénier est riche et qu'elle a conservé toute la fraîcheur de sa jeunesse, quoiqu'elle soit dans un âge assez avancé. Quant à un remède contre certaines tentations, je pense que le meilleur serait un bon mariage. Un époux chrétien me paraît un bien plus sûr antidote contre toutes ces tentations que les tristes et froides murailles d'un couvent. « Vous parlez comme un protestant, » reprit l'évêque avec une mauvaise humeur qui me peina singulièrement. « Nous remarquons en effet que quoique vous confessiez plus de jeunes demoiselles qu'aucun de mes prêtres, pas une seule d'entre elles ne s'est encore faite religieuse. Niez-vous que le vœu de chasteté et la vie des couvents soient les plus sûrs moyens d'arriver à la perfection sur la terre et à la sainteté au ciel ? Je suis affligé, monseigneur, de différer d'opinion sur ce point avec votre grandeur. Le bon Dieu ne connaissait assurément pas le remède dont parle votre grandeur lorsqu'il disait « Il n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais donc lui donner une compagne ». Saint Paul ne le connaissait assurément pas non plus lorsqu'il écrivait « Pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari ». Aucun prêtre n'a eu autant d'occasion que moi de connaître comment les religieuses observent leurs vœux de chasteté. J'en sais trop long sur ce sujet, monseigneur, pour croire que le remède que vous préconisez contre les penchants de notre pauvre nature déchue vaille mieux que celui que Dieu lui-même nous a donné. Je suis absolument certain que nos mères et nos sœurs, qui vivent dans l'état de mariage, pratiquent la chasteté telle que Dieu l'entend, d'une manière bien plus parfaite que la plupart des religieuses. L'évêque me toisa des pieds à la tête avec des yeux pleins de colère en me disant « Vous parlez en hérétique, Père Chinegui. » « Monseigneur, lui répondis-je avec calme, permettez-moi de faire observer respectueusement à votre grandeur que les paroles sacrées que je viens de citer ne sont pas des inventions hérétiques et protestantes, ce sont les paroles de notre Dieu lui-même. Mais, Monseigneur, le Dieu qui connaît les cœurs m'est témoin que mon désir et mes intérêts sont de vous obéir et de mériter par là votre estime. Veuillez donc me donner quelques bonnes raisons que ma conscience de prêtre puisse accepter pour presser Madame Chénier d'entrer dans un couvent et je vous promets de vous satisfaire dès la première occasion. » L'évêque comprit le désir que j'avais de lui obéir et reprit. « J'ai deux bonnes raisons pour vous presser de persuader Madame Chénier de se faire religieuse. La première est que son salut éternel sera plus assuré après qu'elle sera entrée au couvent. La seconde est qu'elle est riche et que son unique héritière, étant déjà religieuse dans le couvent de la congrégation, nous serons alors en possession de la fortune entière de cette famille, ce qui nous permettra de pourvoir aux mille et mille œuvres de piété dont nous sommes chargés. Monseigneur, vous connaissez déjà les convictions de ma conscience sur votre première raison. Quant à vos vues sur la fortune de cette dame, je ne puis en conscience les partager. Madame Chénier fait beaucoup de bien et d'aumône. D'ailleurs, je connais plusieurs de ses proches parents qui sont pauvres et, qui me semble-t-il, ont plus de droits que nous à son héritage. J'éprouve donc une répugnance invincible à me servir de mon caractère de prêtre et de confesseur pour déshériter tous ces pauvres gens, sous un prétexte que je considère comme faux, car je me mentirais à moi-même, comme je mentirais à cette dame, si je lui disais qu'elle sauvera plus aisément son âme dans un couvent que dans sa maison de Longueuil. Chacune de mes paroles semblait amasser sur la figure de mon évêque une nouvelle colère. Je me sentis complètement perdu dans son estime. Je me levai brusquement pour prendre congé de lui en ajoutant « Je suis peiné de vous avoir désappointé. Ce n'est pas la première fois, répondit froidement l'évêque. Mais j'espère que c'est la dernière. Comme vous m'assurez que c'est une affaire de conscience, je dois respecter vos scrupules sans pourtant les partager. J'aime cependant à vous dire que je vous conserve toute mon estime passée, tout en vous priant de garder le secret sur cette affaire. Eh bien, qu'est-ce que tu as de nouveau à me raconter ? Me demanda M. Brassard, à mon retour de Montréal. J'aurai bien des choses intéressantes à vous dire, lui répondis-je, si l'évêque ne m'avait pas fait promettre le secret. À ce mot de secret, M. Brassard se pâma de rire. Un secret ? Un secret ? S'écria-t-il. Mais voilà plus d'un mois qu'il m'en casse les oreilles et qu'il en parle à tout le monde. Le fait est que je ne l'ai pas vu une seule fois depuis ton retour sans qu'il ne m'ait demandé comment s'y prendre pour te persuader d'envoyer la belle dame Chénier au couvent, sous le prétexte de sauver son âme, tandis que le fond de l'affaire est qu'il a jeté les yeux sur sa fortune et qu'il espère en être l'héritier. J'ai eu beau lui dire que tu ne consentirais jamais à entrer dans ses vues à cause de tes préjugés contre la vie monastique, il n'a jamais voulu m'écouter. Je savais pourquoi il te faisait demander. Il m'en avait parlé la veille en me priant de t'en dire un mot, ce que j'avais refusé, te connaissant trop bien. Toute ma crainte est que ton refus obstiné de plier sous sa volonté n'ait achevé ta perte. « Quel homme fourbe que cet évêque !» répondis-je avec indignation. « Dites-moi, mon cher monsieur Brassard, n'est-ce pas une honte de voir que nos couvents sont des trappes pour tromper, ruiner et piller les familles sous le masque de la religion ? Je suis pris de dégoût quand je pense que toutes les grandes démonstrations religieuses que l'on fait lorsque les filles, surtout les filles riches, entrent au couvent, ne sont que des masques inventés par nos évêques pour cacher leurs escroqueries. Tout ce luxe d'éloquence sur la sainteté des vœux monastiques n'est donc que de la poudre jetée aux yeux des pauvres imbéciles afin de les empêcher de s'apercevoir que l'on met la main dans leur gousset pour les voler. Je sais qu'il y a quelques nobles exceptions et vous en êtes une. Ce n'est pas pour vous enrichir que vous avez bâti le beau couvent de Longueuil, puisque vous y avez mis votre dernier sou. Mais si les villes de Québec et de Montréal savaient quelle somme d'argent leur ont été escroquées sous le beau prétexte de mener leurs filles au ciel, elles brûleraient tous ces couvents et pendraient les confesseurs qui les ont trompés. Je sais que l'évêque va m'en vouloir et qu'il va me persécuter pour m'être opposé à ces honteuses spéculations, mais je me sens d'avance fier et heureux de sa haine. Le Dieu de vérité et de justice, le Dieu de l'Évangile, sera de mon côté et prendra ma défense. Je ne crains pas mes ennemis, qu'ils commencent leurs attaques quand ils voudront, je suis prêt. » M. Brassard répondit, « Je ne puis te blâmer de refuser d'obéir à l'évêque. Je l'attendais de toi et je lui avais prédit. Quoique je ne partage pas tous tes préjugés contre les communautés religieuses, je ne puis fermer les yeux à la vérité. Elles ont été dans presque tous les siècles, par leur corruption, leur richesse, leur orgueil et leur paresse, la cause des plus grands maux que l'Église ait souffert. Si j'avais pu prévoir ce qui s'est passé dans le couvent que j'ai bâti ici, je ne l'aurais assurément jamais fondé. Mais, à présent que c'est fait, je ne puis l'abandonner. C'est l'enfant de ma vieillesse, je dois le soutenir jusqu'au bout. Cela n'empêche pas que je me sente défaillir de douleur quand je vois l'immoralité qui y règne. Minuit sonnait à l'horloge, le temps était venu de prendre quelque repos. En se séparant de moi, M. Brassard ajouta « Je crois que tu dois te ceindre les reins et aiguiser ton épée, car tout me dit que l'évêque ne te pardonnera jamais de lui avoir arraché la proie qu'il convoitait depuis longtemps. Il te pardonnera encore moins la hardiesse et l'indépendance avec lesquelles tu lui as parlé. La lutte est engagée. Que Dieu te préserve des coups qu'il va te donner et surtout des trames qu'il va ourdir dans les ténèbres pour te perdre. Je ne les crains pas. J'ai mis ma confiance en Dieu. C'est pour sa cause et pour son honneur que je combats. Il saura bien me défendre contre ces trafiquants d'âmes. » Pendant la première semaine de septembre 1851, j'étais occupé à entendre les confessions dans une des églises de Montréal lorsqu'une fille remarquable par sa beauté vient me confesser des choses d'une horreur et d'une infamie telle que je n'en avais jamais entendu de pareil. Au cours de sa confession, malgré ma défense, elle me donna par deux fois le nom de plusieurs prêtres complices de ses orgies. Elle parlait avec un tel cynisme et une telle effronterie qu'il me vint à la pensée qu'elle n'était pas à mon confessionnal pour obtenir son pardon, mais qu'elle y était envoyée pour me séduire et me faire tomber dans ses filets. Je l'arrêtai brusquement dans ses récits pour lui dire « La manière dont vous vous confessez me montre que vous n'êtes pas ici pour vous réconcilier avec Dieu, mais bien plutôt pour me prendre dans vos pièges. Grâce à Dieu, vous perdez votre temps et je vous défends de revenir à mon confessionnal. » Et je fermai brusquement la grille. Elle me répondit quelque chose que je ne pus comprendre, puis sortit furieuse du confessionnal. Le même soir, je fis part à M. Brassard de mes soupçons sur cette fille. Il me répondit « Ne t'ai-je pas plusieurs fois averti qu'il y avait un complot pour te perdre ? Cette fille en est sans aucun doute un agent. Je connais tes ennemis. Ils ne reculeront devant aucun crime pour te faire perdre ta réputation et t'empêcher de réussir dans ton projet d'émigration. » Je lui répondis que je ne partageais pas ses craintes, que le bon Dieu connaissait mon innocence et qu'il prendrait ma défense dans l'avenir, comme il l'avait fait dans le passé. « Mon cher Shiniki, me répliqua M. Brassard, je te le répète, je connais tes ennemis. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont puissants pour le mal. Sans doute, le bon Dieu peut te protéger contre leurs mauvais desseins, mais je ne puis partager ta tranquillité. L'évêque n'a pas oublié la veuve Chénier et il n'a que trop mérité la réputation d'être l'homme le plus vindicatif du Canada. Sois bien assuré qu'il se servira de la première occasion pour te frapper sans merci. Quand je verrai là 1000 évêques bourgeois pour m'attaquer, je ne les craindrai pas tant que le bon Dieu me soutiendra et qu'il m'empêchera de mettre le pied en dehors de la voie droite. » Je passai les jours suivants à prêcher dans différentes paroisses jusqu'au 23 septembre. À cette date, je revins à Longueuil pour prendre quelques repos et me préparer sans bruit à mon départ pour Chicago. À mon arrivée, je trouvai une lettre de l'évêque de Montréal m'annonçant qu'il m'avait interdit pour un crime qu'il ne me disait pas et sur le témoignage de personnes dont il ne voulait pas me donner le nom. Je montrai la lettre à mon généreux ami. « Voilà le commencement de la réalisation de vos prophéties. Que pensez-vous d'un évêque qui condamne et interdit un prêtre sans lui dire pourquoi et sans même le confronter avec ses accusateurs ?»« C'est justement ce que je craignais de son implacable vengeance, » me répondit M. Brassard. « Il ne te spécifiera jamais le crime pour lequel il t'interdit, car il sait bien que tu es innocent. Et il ne te donnera jamais le nom de tes accusateurs, car il te serait trop aisé de les confondre. Mais tout cela n'est-il pas contre les lois de Dieu et des hommes et contre tous les canons de l'Église ? Sans doute, mais nos évêques ne s'en soucient pas. Eh bien, je vous dis que si l'évêque Bourget veut ainsi fouler aux pieds les lois de l'Évangile et de l'Église pour me perdre et satisfaire son implacable haine, je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Dieu sait que je suis innocent et j'ai mis en lui seul ma confiance. Il ne m'abandonnera pas. Je m'en vais à l'instant trouver l'évêque. S'il n'a jamais su ce qu'il y a d'énergie chez un prêtre qui a la conscience pure, il va l'apprendre aujourd'hui. » Deux heures plus tard, je frappai à la porte de l'évêque de Montréal qui me reçut avec une politesse glaciale. « Monseigneur, lui dis-je, vous n'ignorez pas ce qui m'amène en ce moment. Votre grandeur m'a adressé une lettre pour m'informer que je suis coupable d'un crime qui n'est pas spécifié et dont m'ont accusé des personnes que vous refusez de me faire connaître. Vous m'ôtez mon honneur, sans preuve et sans appel. Je viens vous demander respectueusement, au nom de Jésus-Christ, de me dire pour quel crime je suis interdit et quels sont les noms de mes accusateurs, afin que je puisse vous prouver mon innocence. » Mes paroles avaient tout d'abord embarrassé l'évêque. Ses lèvres étaient pâles et tremblantes, mais ses yeux étaient secs et brillants comme ceux du tigre qui va se jeter sur sa proie. Il répondit : « Je ne puis vous accorder votre demande, monsieur. » J'ouvris alors mon Nouveau Testament et je lus : « Ne prenez jamais d'accusation contre un prêtre que sur le témoignage de deux ou trois témoins. » 1 Timothée 5, 19. Puis j'ajoutai : « C'est après avoir entendu ces solennelles paroles que j'ai consenti à être prêtre. J'espère que votre grandeur ne les a pas oubliés. » L'évêque prit alors un air de mépris et de hauteur dont je ne l'aurais jamais cru capable. « Je n'ai rien non plus à répondre à vos insolentes questions. Vous êtes interdit. Je n'ai plus rien à faire avec vous. » Ces paroles prononcées par l'homme qui, jusqu'à cette heure, était pour moi le symbole de toute autorité légitime sur la terre, me firent une étrange impression. Il me sembla que je me réveillais d'un cauchemar pour tomber dans un abîme. L'horreur de ma position m'apparut dans son affreuse réalité. Ma perte était complète et scellée. Je savais que le haut dignitaire, qui venait de me frapper, avait parmi le peuple la réputation d'un grand saint. Son infâme sentence allait donc être acceptée comme juste et équitable par les multitudes abruties qu'il tenait à ses pieds. Au premier signe de tête de ce dieu moderne, les gens allaient se prosterner pour accepter l'ordre qu'il leur donnerait de me fouler aux pieds. Toutes les oreilles allaient être fermées à mes appels à la justice. Pour la première fois de ma vie, je me sentais absolument défaillir. Tout ce que mon Dieu m'avait donné de force morale s'était évanoui au souffle empoisonné du serpent qui venait de me mordre. À quoi mon innocence allait-elle me servir, puisqu'elle n'était comme que de Dieu et que tout le monde me croirait coupable? Non, jamais aucune parole humaine ne pourra redire les tortures de cette heure de honte et d'angoisse. Plus d'un quart d'heure s'écoula sans qu'un mot ne se fît entendre dans cette chambre, devenu subitement un véritable enfer pour moi. L'évêque paraissait très occupé à écrire des lettres, et moi, je me tenais là, la face cachée dans mes deux mains, pendant que je versais des torrents de larmes. À la fin, je tombai à genoux au pied de l'évêque, puis, prenant ses deux mains dans les miennes, je lui dis d'une voix étouffée par les sanglots : « Mon Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et en la présence de Dieu, je jure que je n'ai rien fait qui puisse mériter un tel châtiment, et je vous supplie de me permettre de prouver mon innocence. » L'évêque, jetant sur moi un regard sauvage, retira brusquement ses mains des miennes et se leva. « Allez-vous-en, vous êtes réellement coupable et définitivement condamné. J'ai mille fois béni Dieu depuis de ce que je n'ai eu à ce moment ni couteau ni poignard sous ma main, car il est certain que je l'aurais plongé jusqu'à la garde dans le cœur de l'homme capable de m'outrager ainsi. Cependant, chose étonnante, sa méchanceté et son insolence me rappelèrent soudainement au respect que je me devais à moi-même et me rendirent ce courage naturel dont j'avais si souvent eu à bénir Dieu dans les mille et mille dangers que j'avais déjà tant de fois rencontrés sur ma route. Je pris à l'instant l'inébranlable résolution de regarder mon ennemi en face, de le combattre à outrance, de le vaincre et de le terrasser. Je sentis avec joie que mon Dieu remettait dans mon cœur la sainte fierté et l'indomptable courage que donne la certitude de l'innocence et qui rendent si souvent l'opprimé invincible et font pâlir et tomber les tyrans les plus redoutés. Il me semble avoir aussi écrit, en lettres de feu sur les murs de cette chambre, les mots redoutables de « mystère d'iniquité ». Pleine de confiance dans le Dieu de la justice et de la vérité, je sortis sans plus dire une seule parole et je m'acheminai vers Longueuil pour raconter à mon ami tout ce qui venait de se passer et ma résolution de lutter publiquement avec l'évêque jusqu'à ce qu'il me rendît justice. J'ajoutai : « Je veux faire une retraite de 8 jours chez les jésuites. Ce ne sera pas trop de 8 jours de prière et de réflexion pour sortir victorieux du combat que l'évêque me livre en ce moment. Il n'y a pas d'homme au monde habile comme les jésuites pour tout savoir. Ils m'aideront à découvrir tous les fils de ce ténébreux mystère et à en exposer l'infamie aux yeux du monde entier. Je suis heureux de voir que tu ne te laisses pas abattre sous les rudes coups qui te sont donnés, répondit M. Brassard. J'espère aussi qu'avec l'aide des jésuites, tu pourras remporter la victoire sur tes ennemis. » À 6 heures du soir, ce même jour, j'étais au collège des jésuites. Le directeur, le révérend Père Schneider, étant seul avec moi, je lui racontais comment l'évêque, après avoir généreusement mis de côté ses préjugés contre moi à l'occasion de ma sortie du monastère des Oblats, m'avait honorablement soutenu pendant mes 4 années de travaux sur la tempérance. Je lui dis aussi comment son bon vouloir s'était changé en haine implacable depuis que j'avais refusé d'envoyer Madame Chénier au couvent pour faire passer sa fortune à l'évêché et comment cette colère s'était accrue par l'exposé de mes vues sur l'émigration canadienne. Il savait d'ailleurs tout cela déjà. Je lui avouais franchement que j'avais 2 buts dans la retraite que je voulais faire sous sa direction avant de quitter le Canada. Le premier était de retremper mon âme et raffermir ma foi par la prière et la méditation. Le second était de lui demander le secours de sa charité, de son expérience et de sa sagesse pour forcer l'évêque à me rendre justice et à retirer l'interdit dont il venait de me frapper si injustement. Je ne lui cachais pas que j'étais déterminé à dénoncer sa conduite et à le sommer publiquement de me prouver ma faute et de me nommer ses témoins. Le vénérable jésuite me répondit avec calme. « Je vous approuve entièrement et suis prêt à vous aider. La première chose à faire est de chercher à connaître les noms de vos accusateurs. Je pense comme vous que la malheureuse fille que vous avez si brusquement et si sagement chassée de votre confessionnal en sait long sur la trame ourdie pour vous perdre. Il est dommage que vous ne lui ayez pas demandé son nom et le lieu de sa résidence avant de la congédier. Vous pouvez compter sur mon dévouement. Je ferai tout ce qui sera à mon pouvoir cette semaine pour montrer à l'évêque le mal irréparable qu'il va faire à l'Église s'il ne retire pas cette sentence inique. Ne craignez rien. Le peuple du Canada et les 200 000 soldats que vous avez enrôlés sous les saintes bannières de la tempérance ne permettront pas à l'évêque de Montréal de fouler aux pieds les lois de Dieu et de l'Évangile pour perdre le prêtre que lui-même a élevé si haut et qu'il a si justement honoré en le nommant apôtre de la tempérance au Canada. Il serait trop long de redire tous les sages conseils et les paroles encourageantes que j'entendis ce soir-là de la bouche du père Schneider. C'était un homme dont la sagesse, la science et la piété n'étaient surpassées que par sa simplicité et sa modestie dans les rapports ordinaires de la vie. Il n'était arrivé d'Europe que depuis 1849. La première fois que je l'avais vu, peu après son installation au collège des jésuites, j'avais éprouvé tant de respect et d'estime pour lui que je l'avais choisi pour mon confesseur. 3 jours après, il entrait chez moi plus tôt qu'à l'ordinaire et me disait joyeusement. Mes recherches ont abouti à la découverte du maître de voiture qui a conduit la malheureuse fille que vous avez renvoyée de votre confessionnal. Il va être ici et pourra vous donner tous les renseignements que vous désirez. 2 heures plus tard, cet homme était dans ma chambre et j'avais le plaisir de reconnaître en lui un des braves Canadiens que la tempérance avait régénéré et qui me regardait comme son propre père. Je lui demandais s'il se rappelait le nom de la personne qui l'avait amené à l'église peu de jours auparavant. « Oui, monsieur, je me la rappelle parfaitement. Elle est d'une bonne famille, quoiqu'elle ait personnellement une bien mauvaise réputation. Pensez-vous que vous réussiriez à lui persuader de venir ici sans lui laisser soupçonner qu'il l'a fait demander ?»« Rien ne me sera plus facile, » répond ce brave homme. « Si elle est chez elle, elle sera ici avant la fin du jour. » En effet, à 3 heures de l'après-midi, il frappait à ma porte et m'annonçait que la personne en question était au parloir. J'allai à l'instant à la chambre du père Schneider et lui dis « Le bon Dieu a exaucé nos prières. La personne que nous voulons voir est ici. Ayez la bonté de m'accompagner pour me servir de témoin. Prenez un évangile, de l'encre, une plume et du papier, nous en aurons besoin. Il est impossible de redire la surprise, la terreur même de la malheureuse en me reconnaissant. Elle fut sur le point de s'évanouir. Je craignis pendant un moment qu'elle ne fût incapable de parler. J'allais lui chercher un verre d'eau dont elle but quelques gouttes, et en même temps, je lui parlais avec la plus grande douceur, ce qui lui fit du bien. Lorsque je vis qu'elle était bien revenue à elle-même et qu'elle comprenait que loin d'être en colère, j'étais plein de compassion et de charité pour elle, je lui dis « Mademoiselle, vous êtes ici en la présence de Dieu et de 2 de ses prêtres. Ce Dieu Tout-Puissant entend toutes vos paroles. Dites donc la vérité. Vous m'avez dénoncé à l'évêque comme coupable de quelques grands crimes dont vous me savez innocent. Par ce faux témoignage, vous êtes la cause que je suis injustement interdit. Le mal que vous m'avez fait est grand, mais vous pouvez le réparer et vous allez le faire en répondant à mes questions. Dites-moi devant ce vénérable prêtre si je suis coupable du crime dont vous m'avez accusé chez l'évêque de Montréal. » À ces paroles, la malheureuse se cacha la figure dans ses 2 mains et murmura d'une voix étouffée. « Non, monsieur. N'êtes-vous pas venu à mon confessionnal bien plus tôt pour me tendre un piège que pour vous réconcilier avec Dieu ? Oui, monsieur. Continuez à dire la vérité, et le bon Dieu vous pardonnera. Lorsque vous avez vu que vous ne réussissiez pas dans votre dessein criminel, vous avez voulu vous venger et vous avez été m'accuser chez l'évêque. Oui, monsieur. Après que le père Schneider eut fait 4 copies de cette déclaration, qu'elle signa en prêtant serment sur les saints évangiles, je lui pardonnai le mal qu'elle avait voulu me faire et la congédiai après lui avoir donné quelques bons conseils. N'est-il pas bien évident, dis-je au père Schneider, que le bon Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent en lui toute leur confiance dans les jours d'épreuve. C'est vrai, me répondit-il. Jamais je n'ai vu d'une manière aussi évidente que dans cette circonstance la main de Dieu étendue pour protéger celui qui l'invoque. Vous voilà par sa grâce arraché aux mains de vos persécuteurs. Ce que vous avez maintenant à faire, c'est d'envoyer cette rétraction à l'évêque avec une polie mais ferme requête de rétracter son injuste sentence contre vous, puis laissez-moi faire le reste. D'ailleurs, l'évêque va tout faire en son pouvoir maintenant pour vous faire oublier cette noire page de son histoire. L'habile jésuite ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Jamais l'évêque Bourget ne m'avait reçu avec autant de marques, non seulement de bonté mais de respect, quand, ma retraite finie, j'allais prendre congé de lui la veille de mon départ du Canada pour les États-Unis. J'ose espérer, monseigneur, lui dis-je, qu'aujourd'hui je possède votre estime et la confiance de votre grandeur. Certainement. « Certainement, mon cher Chiniki. Vous possédez toute ma confiance et mon amitié. Je dirai plus, ma très sincère gratitude pour tout ce que vous avez fait dans mon diocèse. » Je répondis, « Je suis profondément reconnaissant à votre grandeur de tant d'expressions de sa bonté. Qu'il me soit permis, maintenant, de vous demander 2 nouvelles faveurs. La première, un document écrit de la main de votre grandeur exprimant ses sentiments de bonté et qui pourra me servir d'exit auprès de Monseigneur de Chicago. La seconde, un calice aussi de votre main pour dire la messe tout le reste de mes jours. C'est avec le plus grand plaisir que je vais vous accorder cette double requête, répondit l'évêque. Et sans perdre un moment, il se mit à écrire la lettre suivante que je reproduis ici, vu son immense importance, en la faisant lithographier. Montréal, le 1er octobre 1851. Vous me demandez la permission de sortir du diocèse pour aller offrir vos services à Monseigneur de Chicago. Comme vous appartenez au diocèse de Québec, je crois que c'est à Monseigneur l'archevêque à vous donner l'exit que vous demandez. Pour moi, je ne puis que vous remercier de vos travaux parmi nous et vous souhaiter, en reconnaissance, les plus abondantes bénédictions du ciel. Tous les jours, vous serez dans mon souvenir et dans mon cœur. Et j'espère que la divine providence me mettra à même de vous témoigner plus tard tout ce que je ressens en moi de gratitude. Ignace, évêque de Montréal. L'évêque qui a écrit de telles paroles ne confesse-t-il pas qu'il a prononcé un jugement injuste contre celui auquel elle s'adresse? Et comme recommandation et introduction auprès de l'évêque Vandevelle de Chicago, qui m'avait déjà invité à aller fonder une nouvelle France sur les plaines de l'Illinois, pouvais-je en désirer une meilleure? Aussi accepta-t-il cette lettre sans exiger l'exit que l'évêque Bourget m'avait suggéré. Mais, bien que cette lettre fût une parfaite rétractation de tout le mal que l'évêque avait fait et dit contre moi, et était pour moi dans les circonstances où je me trouvais d'une valeur immense, l'évêque ajouta encore à son importance par la manière excessivement bienveillante qu'il me la présenta. Comme il passait dans une autre chambre, il me dit « Je vais vous donner le calice que vous désirez pour offrir le sacrifice de la messe jusqu'à la fin de vos jours. » Mais il revint en disant « Mon secrétaire est sorti et à la clé du coffre qui contient ses vases. N'importe, monseigneur, lui dis-je, donnez ordre à votre secrétaire de remettre ce vase entre les mains de monsieur le curé Brassard, qui me l'enverra dans une caisse de livres qu'il doit m'expédier sous peu à Chicago. L'évêque voulut bien me le promettre et il tint sa promesse. Ce précieux vase fut remis entre les mains de monsieur Brassard en présence de plusieurs prêtres. Il fut envoyé quelque temps après à Chicago, où je le reçus, et ce beau calice en argent est encore en ma possession. Alors, je tombai à genoux et dis « Monseigneur, je suis sur le point de quitter le Canada pour le Grand Ouest. Veuillez me donner votre bénédiction. » Il me bénit, me pressa sur son cœur avec la tendresse d'un père, disant « Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, où que vous soyez, et quoi que vous fassiez, jusqu'à la fin de vos jours. »